Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve et je prie qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Depuis plusieurs semaines, tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux et les autres messageries instantanées reçoivent toutes sortes de messages, de textes, d'images, de vidéos qui parlent d'un seul et d'un même sujet, le coronavirus. Et dans tout ce flot d'informations, il y a des fake news, c'est-à-dire des fausses informations avec leur côté sensationnel ou avec une touche de théorie du complot, ont l'art d'attirer l'attention. Toujours dans ce lot d'informations, on reçoit parfois des messages qui invitent à regarder ces événements tragiques que traverse le monde comme des signes de la fin des temps. Cette pandémie est-elle le signe que nous n'en avons plus pour longtemps avant le retour du Seigneur ? J'ai remarqué que face à cette question, il y a généralement deux types extrêmes de chrétiens. Tout d'abord, les inquiets qui abordent avec appréhension le retour de Jésus. Et puis il y a les chrétiens apathiques, blessés, indifférents, qui portent aucune attention à ces messages. Quelles attitudes avoir devant ces messages que certains qualifient d'apocalyptiques ? Je propose d'aller chercher dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Jésus nous dit dans ce texte que le temple sera détruit, versets 5 et 6. Et on peut aussi y voir plus largement la fin de ce monde. Il répond aussi à la question des disciples sur le moment où les signes qui montreront que ces choses sont sur le point d'arriver, le verset 7. Jésus parle de guerre, de tremblement de terre et de pandémie, versets 9 à 11. Et aussi de persécution des chrétiens. Et ce sera certainement une formidable opportunité de témoignage de l'évangile pour eux, verset 12. Viennent ensuite les signes dans le ciel, au verset 25 et 26. Alors j'aimerais, à travers ce texte, tirer quatre attitudes du croyant qui se prépare sereinement pour les événements de la fin. Tout d'abord, être attentif aux signes qui se répètent, voire qui s'intensifient à travers l'histoire humaine. Au verset 11, il est dit, toujours le chapitre 21 de Luc, « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. » Dans ces deux premières décennies du 21e siècle, ce monde a connu plusieurs catastrophes qui ont eu un retentissement planétaire. Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001, plus de 1900 morts en quelques heures. La canicule de 2003, 70 000 morts en Europe. Et on peut penser aussi au tsunami de l'océan Indien en fin 2004, 220 000 morts. Et à chaque fois, on a utilisé des termes qu'on dit apocalyptiques, tout ça pour parler de ces événements tragiques. Et si on remonte dans le temps, on trouvera bien sûr la Seconde Guerre mondiale, avec notamment ces deux explosions de bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, 60 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque en un peu plus de 6 ans. Et puis, avant, en 1918, une pandémie de la grippe dite espagnole, 50 à 100 millions de morts. Ces rappels ont quelque chose d'insupportable à entendre, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le million de personnes touchées par le coronavirus a été dépassé. Et on compte plus de près de 60 000 décès. Et donc, à chaque catastrophe, il y a des chances que cette pandémie, je dirais, change notre façon de vivre. Surtout si ce type de maladie revient de façon chronique. Et comme à chaque fois dans ces catastrophes, elles font penser à ce dont parle l'Écriture. Et on peut dire qu'elles sont comme des répétitions à petite échelle de ce qui est à venir. Elles nous rappellent que ce monde a une fin. Le coronavirus est-il un signe que la fin du monde est là ou est pour bientôt ? Alors difficile d'y répondre aussi directement ainsi, parce que ces catastrophes, on vient de le dire, reviennent et se répètent à différentes périodes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce monde qui a connu la chute à travers Adam et Ève, leur désobéissance, a une fin. Et la fin, ça pourrait être demain, après-demain, ou dans 12 ans, ou dans 2 ou 3 siècles, ou dans des millénaires, que sais-je. Mais pour autant, notre première attitude du croyant qui se prépare doit être d'être attentif aux signes qui se répètent, voire s'intensifient à travers l'histoire humaine. Voici la deuxième attitude. Refuser de regarder notre présent de trop près. Au verset 7 et 8, Luc chapitre 21, il est dit « Quand cela se produira-t-il » Et c'est les disciples qui posent cette question. « Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu ? Jésus leur dit : faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Un jour, Billy Graham s'est retrouvé au Louvre, à Paris, devant un tableau d'un célèbre impressionniste. Et parce qu'il s'était mis juste à quelques centimètres de ce tableau, il ne voyait que des gouttelettes de peinture de différentes couleurs disposées de façon incohérente. Et il demanda à son épouse : mais qu'est-ce que ça représente ? Et son épouse lui conseilla de reculer un petit peu pour voir mieux le tableau, parce que trop près du tableau, il ne voyait rien. C'est ce qui nous arrive quand nous essayons de tirer des conclusions rapides sur ce que nous vivons là, tout de suite, ou quand nous prenons des passages de la Bible pour en tirer des conclusions sans prendre en compte le contexte plus large. À une bonne distance du tableau, Billy Graham a pu voir la beauté du tableau dans l'harmonie de chaque détail. Et c'est pour ça qu'en étant attentif à l'injonction de Jésus de fuir ceux qui nous induisent en erreur, cette situation mondiale doit nous inviter à prendre le recul et à comprendre ce que Dieu fait dans son plan souverain. Et c'est ce qu'il attend de nous, parce que trop sont fascinés par les interprétations de la fin des temps, mais malheureusement n'ont aucune mise en pratique réelle dans leur vie quotidienne. Et c'est notre deuxième attitude, c'est de refuser de regarder de trop près les événements présents. Voici notre troisième attitude, verset 10. Ces choses nous arriveront pour donner l'occasion d'apporter un témoignage. La troisième attitude, c'est d'être vigilant et proactif. Vous savez, quand nous sommes dans notre voiture sur la route, nous avons des panneaux de signalisation et ils sont là pour nous indiquer les directions, les distances, les règles à respecter et les dangers. La Bible nous dit que Dieu a placé des signes très clairs dans notre monde pour nous dire que Jésus revient et qu'entre-temps, nous avons une mission, c'est-à-dire d'être des vrais chrétiens, ne pas faire de faux semblants. Voilà ce que nous pouvons en dire en trois avertissements. Le message de la fin des temps n'est pas un message pour nous faire peur, mais nous ne devons pas nous contenter d'écouter, nous devons obéir. Jacques chapitre 1, le verset 22 nous dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Cette période de crise mondiale nous invite à s'interroger sur notre mise en pratique réelle de la parole de Dieu au quotidien. Cessons les doubles visages, soyons vrais, connectés à Christ dans nos actes. Deuxièmement, deuxième advertissement, le message de la fin de temps nous rappelle que ne pas faire ce qui est juste est aussi un péché. Jacques chapitre 4, le verset 17. Qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable du péché. Combien de fois avons-nous omis de faire le bien pour quelqu'un ? Troisièmement, troisième advertissement, le message de la fin des temps nous rappelle que la mission du chrétien en toutes circonstances, c'est de gagner une âme après l'autre, d'influencer sa génération. Voilà ce que disait C.S. Lewis, un philosophe chrétien, aussi auteur des Chroniques de Narnia. Il disait : en lisant l'histoire, on découvre que les chrétiens ayant exercé la plus grande influence dans leur temps pensaient le plus souvent au monde à venir. Les apôtres eux-mêmes convertissant l'Empire romain, les grands bâtisseurs du Moyen-Âge, les Anglais évangéliques abolitionnistes de la traite des Noirs ont tous laissé dans l'histoire universelle une trace indélébile car leur esprit était subjugué par la pensée du ciel. Or, c'est depuis que les chrétiens ont, dans une large mesure, cessé de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus inefficaces dans celui-ci. Fin de citation. Chers amis, les événements de la fin de ce monde sont en marche, oui. Mais fuyons les interprétations hâtives et hasardeuses des temps que nous vivons. Et puis fuyons aussi l'indifférence, la nonchalance et le manque d'engagement. L'évangile devient encore plus accessible pour beaucoup de ceux qui nous entourent dans ces temps troublés. Soyons des témoins passionnés pour ceux qui ont le cœur brisé dans cette période. Notre troisième attitude est là. C'est d'être vigilant et proactif pour que le royaume de Dieu avance. Voici la quatrième et dernière attitude, vivre par anticipation. Au verset 27, toujours Luc chapitre 21. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Pour ceux qui aiment le football, Vous êtes-vous déjà arrivé de regarder un match qui a été enregistré et dont vous connaissez déjà le résultat? Alors pourquoi vous regardez le match? Certainement pas parce que votre équipe a perdu, non, parce que votre équipe a gagné, votre équipe préférée a gagné. Et vous ne cherchez pas à savoir s'ils ont gagné, mais vous cherchez à savoir comment ils ont gagné. De même, nous savons que Jésus-Christ a déjà gagné. Et nous vivons par anticipation tout ce qui est déjà prévu. Et nous voulons voir la victoire de Christ se dérouler devant nos yeux. Premièrement, nous savons que Jésus reviendra personnellement et qu'il sera visible par tous. Et il reviendra dans son corps à la fin de temps. Et c'est à ce moment-là que tous les morts en Christ ressusciteront. Nous savons aussi que Jésus-Christ, à son retour, établira son règne. Et tous ceux qui sont ressuscités en Christ participeront à ce règne. Oui, le mal s'accroîtra sur la terre et l'Église sera persécutée, mais elle tiendra. Oui, c'est vrai, Satan est actif sur cette terre, mais sa puissance est limitée parce que Christ a déjà remporté la victoire. Et enfin, nous savons qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et le jugement dernier, ce sera le salut éternel pour les rachetés au prix du sang de Christ. Et le châtiment éternel, l'enfer, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Christ sur cette terre. Voici notre dernière attitude donc, vivre par anticipation toutes ces choses. Alors oui, le monde tel que nous le vivons a une fin. Et la paix, l'équilibre, la joie, le bonheur, la justice auquel tout être humain aspire, ça deviendra une réalité lorsque Christ reviendra. Entre-temps, nous choisissons de persévérer dans ces quatre attitudes. D'être attentif aux signes qui se répètent, voire s'intensifient à travers l'histoire humaine. De refuser de regarder notre présent de trop près au risque de se tromper, mais surtout d'être vigilant et proactif pour vivre une vie de chrétien authentique avec une repentance régulière et aussi le fait de gagner une âme après l'autre. Et enfin, vivre par anticipation le retour du Seigneur. Parce qu'à tout moment, on peut mourir et à tout moment, Christ peut revenir parce que notre vie n'est pas simplement pour cette terre. Nous ne sommes que de passage et notre espérance, elle est en Christ. Et nous devons toujours garder notre regard vers l'avenir, vers le ciel. Car nous savons que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et surtout pas ce virus. Que Dieu vous bénisse.